Et bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio, la radio des Hauts-de-Garonne. Et voilà, comme chaque jour du lundi au vendredi, on est présent avec toute l'équipe du journal d'information locale et culturelle, mais pas que, parce que voilà, le mardi, j'englobe, j'insère également le magazine à suivre, mais je vais vous en dire plus encore tout de suite. Voilà, après vous avoir souhaité la bienvenue et juste rappeler comment nous suivre, la bande FM 91.3, vous pouvez nous suivre par le site hauts-de-radio.fr et troisième moyen pour suivre tous nos programme, et bien le DAB, la radio numérique terrestre. Allez, le sommaire de ce journal et du magazine thématique à suivre en ce mardi 10 mars. Alors, sur la partie journal, voilà un petit changement sur les invités prévus. Donc on va retrouver une interview réalisée la semaine dernière où j'ai eu le plaisir, j'espère qu'il a été et qu'il le sera encore aujourd'hui partagé. Simon Emmerich, voilà, fondateur du Sudrim Shot à Bordeaux, tous deux ingénieurs du son et artistes, vient nous en parler de ce nouveau lieu qui va ouvrir ses portes d'ici quelques temps. Voilà, on va dire début avril, quasiment tout est prêt. Cette salle de répétition Sud 2 MAO en pleine autonomie, Sud enregistrement. Et voilà, ça c'est une belle info, notamment dans le cadre de cet appel à projet Radio Découverte Musicale, où on est soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine, où on met en avant les artistes, les labels néo-aquitains et des lieux comme celui-ci. Voilà, donc on va retrouver cette interview. Et juste en suivant, vous allez retrouver, comme tous les mardis, nos jeunes reporters européens, nos jeunes ambassadeurs des valeurs éco-citoyennes et européennes pour ce magazine réalisé en partenariat avec la MEBA, la Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine. Et tous les 15 jours, c'est l'environnement qui est mis en avant avec une émission qui est sous-titrée Le bon, le mauvais et l'écolo. Là, vous allez la retrouver juste après l'interview que vous allez tout de suite retrouver. Juste le temps néanmoins, voilà, j'aurai pas le temps de faire d'agenda, mais parmi les partenariats, les soutiens, on a l'Université Populaire des Hauts-de-Garonne, et ça me permet de annoncer que ce mardi, ce sera une conférence intitulée Delphine de Girardin et l'invention de la chronique parisienne. Rendez-vous ce mardi à la salle Condorcet, 12 rue Condorcet à Lormont. Philippe Baudor, professeur honoraire en littérature, sera le conférencier. C'est en accès libre et gratuit, l'éducation populaire. Et pour les détails un petit peu plus pragmatique, portes ouvertes à 18h15, début des conférences 18h30 et clôture aux alentours de 20h, et pas besoin de réserver, tout le monde est le bienvenu. Voilà, il fallait à minima que j'annonce cette info, et là tout de suite vous allez retrouver cette interview qui a été réalisée la semaine dernière. Donc voilà, si des notions de temps deviennent obsolètes, voilà, faut en tenir compte, et juste en suivant vous retrouverez le bon, le mauvais et l'écolo. Du coup, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et accueillir, comme il se doit, nos invités du jour, Simon et Emmerich. Bonjour et bienvenue à tous les deux.
Bonjour.
Voilà, donc Studio Rimshot à Bordeaux, on va parler, vous êtes tous les deux fondateurs de ce studio, et quand on parle de studio, à la fois des salles de répétition, studio MAO, studio d'enregistrement, donc ça c'est un projet qui va rapidement voir le jour, on va attendre quelques temps, mais peut-être rappeler, Simon, on s'était croisé à Bassins régulièrement, donc ça c'est le petit clin d'œil, comme quoi d'être sur le terrain, au plus près des habitants, ça permet de faire de belles rencontres. Donc on s'est retrouvés régulièrement, on fait un petit clin d'œil à toute l'équipe de Bassens, dans le cadre de la fête du quartier de l'avenir. Et là, vous étiez déjà dans des domaines artistiques, j'allais dire, mais là, c'est un nouveau projet, Simon, c'est bien ça, hein?
Oui, c'est ça. Bah oui, on s'est déjà croisé dans ce genre de projet, et en effet, avoir été sur le terrain, ça a fait germer des envies. Ça permet aussi d'identifier des besoins, et de ça il y a ce nouveau projet qui est né, qui va prendre un petit peu la suite de l'ancien, donc studio d'enregistrement, de répétition, MAO,
tout voilà, ça. Voilà, on va détailler, mais cette histoire de faire ce petit clin d'œil, on s'est régulièrement croisés, et puis voilà, d'être au contact, ça permet d'échanger, et puis aujourd'hui on se retrouve pour que vous nous parliez de ce projet. Alors c'est un projet, vous allez bien sûr nous en dire plus encore, donc qui va voir le jour très bientôt, donc on continue à travailler, donc à peu près mi-avril pour ce nouveau complexe musical. Vous repartez de zéro d'ailleurs sur ce projet-là.
Oui, on part de zéro.
Après, vous avez l'expérience, les compétences, matériel, bien sûr.
Pas en termes d'expertise de métier, mais en termes de construction de murs, on part de zéro, oui, bien sûr.
Regardez, on va être très pragmatique. Donc, c'est un lieu qui va s'ouvrir à Mérignac. Oui. On dévoile l'adresse ou on en parlera quand ça sera inauguré comme,
On peut dévoiler l'adresse, il n'y a pas de problème.
Comme vous voulez.
Donc on est au 6 avenue Maurice Lévy à Mérignac. Vraiment à côté de la rocade.
Ouais, bon, c'est ça. Donc ça permet
très
même
facile d'accès
aux musiciens d'aller et venir. Donc va falloir attendre encore un petit peu, hein, parce que je présume que ça travaille en coulisses.
Exactement.
Parce que moi, je vois le projet sur le papier, et je suis sûr que dans la réalité, ça va être énorme. Donc plusieurs projets. Alors déjà, on va peut-être énumérer. Après, n'hésitez pas, bien sûr, à amener plus d'infos, parce que là, c'est une synthèse. Mais déjà, c'est un lieu qui va comprendre déjà 7 salles de répétition, carrément. Donc 7 salles équipées.
C'est 7 salles équipées qui vont se répartir en 3 gammes de salles. Il y a les salles small, les salles standard, les salles premium, qui varient en taille 2 mètres carrés, mais aussi en quantité d'équipement, on va dire. Il y a les salles small, c'est du 20-22 mètres carrés, les standards du 27, les premium du 40 mètres carrés. Donc c'est vraiment gros. Et en fonction de ça, dans toutes les salles, vous allez retrouver un équipement commun, de la batterie, de la diffusion, du câblage, des retours et des consoles pour matricer tout ça, pour faire un peu tout ce qu'on a envie.
Donc voilà, vous coucounez les musiciens, hein, c'est-à-dire qu'à minima, il faut qu'ils amènent leur voix.
Exactement, à minimum leur voix.
Leur instrument.
Les batteries sont sur place, par contre.
Ça, c'est important. Pour ça, les batteurs, en général, ils apprécient. Hein.
Ils apprécient, mais s'ils ont envie de ramener leur batterie, évidemment, ils peuvent. Il faut juste nous prévenir qu'on fasse la place avant, qu'on enlève nos batteries. Mais évidemment, tout est possible. C'est cette flexibilité-là qu'on a envie de rendre aussi compréhensible, que les gens soient au courant qu'ils peuvent, une fois que ce sera ouvert, ils pourront absolument tout faire. Il faut juste nous appeler et nous prévenir. Mais on est assez flexible là-dessus. Le but, c'est que tout le monde soit à l'aise, quoi.
Oui, et puis après, quand les groupes ils auront leurs habitudes, ça permet justement de se dire bon, je préfère ma batterie. Puis après, là, je ne veux pas me focaliser que sur les joueurs de tambour et cymbales. Mais en général, on peut arriver, juste mettre sa caisse claire, etc. Mais l'important, le message, c'est de dire que voilà, des locaux équipés, donc 3 salles, ça aussi c'est un beau confort, parce que les groupes, il peut y avoir un duo qui a envie de répéter, même s'il pourrait en acoustique répéter chez lui, mais là ça permet d'avoir des conditions optimales. Et selon les tailles, des groupes avec un petit peu plus de musiciens, ça permet d'avoir le local adapté.
Exactement.
Et je parle de musiciens, mais ça peut être ouvert à tout le monde, un artiste de théâtre qui veut venir, pourquoi pas, répéter s'il y a des scènes.
Voilà, alors le nom, c'est pour ces 7 salles de répétition, le nom c'est bel et bien répétition, mais n'importe qu'il y a un projet de faire un podcast, de faire un live filmé, de venir des professeurs qui cherchent des endroits pour donner les cours. Nous, ce qu'on met, c'est des salles à disposition. Le nom, c'est répétition, mais s'il y a des envies de faire des choses différentes dedans, il n'y a pas de problème.
Chacun fait productions artistiques.
Voilà. Chacun fait ce qu'il veut dans les salles. S'il y a envie de faire des projets un peu plus longue durée, il faut juste nous en parler. On est très ouvert là-dessus, mais tout est possible, bien sûr.
Oui, en même temps, pour chaque projet, le contact direct, hein, parce qu'on parle de salles de répétition, mais ce n'est pas fini. Il y a tellement d'autres propositions. Ouais. Je ne sais pas si vous voulez compléter sur les salles de répétition, parce que là, moi, j'entends bien. Donc, 7 salles, donc c'est quand même éloquent. Détails différents pour s'adapter. Après, ce qu'on pourrait proposer, présenter plutôt, c'est que ça va être ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
Exactement.
Donc je pense que pour les musiciens, les amplitudes, il y a de quoi faire sur les locaux de répète. Si vous voulez compléter.
On a deux. Alors pour la répétition, donc après, en plus de la répétition, on a un box MAO. Toujours, c'est pour de la répétition, mais plus pour l'usage. Des musiciens électroniques, donc avec le bureau, une paire d'enceintes et un peu de matériel pour qu'ils puissent travailler ailleurs que chez eux.
Voilà, c'est un peu pour compléter l'offre de répétition de musique amplifiée. Il y a aussi cette salle MAO qui va servir pour les gens qui ont plus un profil de producteur ou alors des mixeurs. Voilà,
ça peut concerner beaucoup de monde, hein, parce que je sais que certains travaillent seuls sur l'ordi chez eux.
C'est ça.
Mais d'être dans un milieu comme ce complexe musical, ça permet de côtoyer des artistes où, vous ne pourrez pas être derrière chaque personne, mais en termes d'accompagnement, de conseils, vous êtes là aussi, hein, parce que c'est votre formation, ingénieur du son et musicien, tous les deux. Donc, studio MAO. Après, studio d'enregistrement. Donc là, je ne sais pas si vous voulez en dire quelques mots, mais comme tous ces enregistrements, ça peut être un groupe de 20 personnes qui peut enregistrer. On n'enregistre pas de la même manière, bien sûr. Oui. Ça peut être, pourquoi pas, quelqu'un qui est même amateur, hein, je dis ça avec la plus grande des bienveillances, qui veut se faire une démo, qui a une bande-son.
Exactement, nous on est là pour tout type de projet et de niveau, en fait. Des gens qui veulent se mettre un pied à l'étrier au studio, on sera ravis de les accompagner. Et des gens qui ont un projet beaucoup plus poussé, comme par exemple Al 4 qu'on va écouter tout à l'heure, tout le monde est les bienvenus, et quelle que soit la taille de la composition, nous on a deux de nos salles de répétition de box qui sont câblées directement à la régie studio. Du coup on a la possibilité d'accueillir les grandes compositions, et c'est ça qui est un peu fun, c'est que tout est modulable, tout est faisable. La limite, c'est le projet des gens qui viennent nous voir, en fait, un peu.
Oui, non, mais là, je vous écoute, je vois que tout est pensé, parce que aucun groupe n'a... Enfin, il y a des similitudes, mais on n'a pas tous les mêmes projets. Bon, je sais que des fois, il y a des groupes qui se font pour un événement, donc de pouvoir répéter et puis de pouvoir avoir cette possibilité de repartir avec un enregistrement live pour continuer à travailler, c'est bien. Après l'enregistrement, bon, ça sert des fois de démo, d'album. Oui. Voilà, donc tout est pensé. Donc ça, c'est le fruit de vos compétences. Hein. Ça fait quelques années que vous êtes dans le milieu. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi? Parce que là, je vois entre les salles de répétition sud de MAO, d'enregistrement, donc 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc c'est vraiment de s'adapter au mieux pour tous les musiciens, parce que chacun a son rythme de vie. Oui. Parce que la plupart des musiciens amateurs, bien sûr, quand on a un boulot la journée, bon, ça se retrouve plutôt le soir, voire le week-end. Le pro peut trouver. Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter sur le complexe?
Petite précision sur le 24-24, 7 sur 7, que c'est pas juste une expression, c'est vraiment, vu que tout est basé sur un système de badge qui ouvre des salles à un horaire précis qu'on a réservé au préalable sur le site, vu que c'est ce système de badge, tout ce qui est répétition, c'est un vrai 24-24, 7 jours sur 7. C'est une vraie autonomie. Si vous avez envie de faire vos sessions à 3 heures du matin, personne ne vous en empêchera, outre votre propre fatigue, évidemment. Mais il n'y a que le studio d'enregistrement qui nécessite de passer par nous, parce que c'est pas...
Parce que là, il faut qu'il y ait un ingénieur du son derrière les manettes.
Un ingénieur, exactement.
Après, vous pouvez travailler, si un groupe a son propre ingénieur du son, bon, après, ça, c'est l'accompagnement, ça, c'est vous qui gérez ce qui est possible.
On s'appelle, on discute, bien sûr.
Voilà, mais ça, j'en doutais pas, parce que c'est vrai que chaque groupe, chaque artiste et chaque projet, hein, parce que souvent, en studio de répétition, on pense aux musiciens, mais il y a tellement de projets qui peuvent amener... Je pense, nous, on a des compagnies théâtrales. Donc, je pense que les horizons sont multiples.
Oui, c'est large.
Voilà, et c'est tant mieux. Après, pour l'accueil, il y aura un petit coin cosy. Je ne sais pas, des fois, dans des lieux, on arrive, on a le... pas que j'incite à la paresse, c'est pas du tout, mais des fois, on a un coin, certains l'équipent avec un système de bar, etc., où on peut se poser après une répétition. Donc là, c'est comme tout est pensé. Après, c'est du détail. Hein, vous rassurez-vous, si vous dites, on n'a pas reçu le canapé.
Exactement, on a pensé à un lieu d'accueil assez chaleureux pour que les gens puissent, on fait de la musique, donc le but c'est quand même de s'amuser et de se détendre. Donc on a un lieu d'accueil qui a été réfléchi en mettant aussi des artistes visuels dedans. On veut pas que ça soit seulement un lieu pour les musiciens, mais un lieu pour tous les artistes, peu importe le support. Donc on les a mis à l'honneur dans cette pièce là.
Ouais. Ça, vous le découvrirez un peu dans la déco. Et évidemment, il y aura de quoi prendre un café, il y aura une petite cuisine, etc.
Respectez les locaux, néanmoins. N'allez pas boire dans les locaux.
Alors, vous pouvez boire votre café dans les salles. Juste, pitié, ne renversez pas votre café sur les magnifiques pots de batterie toutes neuves.
Non, mais voilà, parce que j'ai vécu ce genre d'expérience. Voilà, vaut mieux, après, si vous voulez, patron, hein, bien sûr. Mais je pense que vaut mieux boire son café dans un lieu à un moment donné. Bien sûr. La répétition. Et moi, sur ma petite expérience aussi, moi, je me rappelle fréquenter des fois des lieux de proximité, même sans y répéter. Ça permettait d'aller boire un coup, hein, ce qui permet permet puis d'échanger. Et le partage entre musiciens, c'est important. D'où, voilà, je posais la question de s'il y avait un endroit où on peut... Après, il y a des groupes, il y en a toujours un qui arrive en retard, en avance. Donc, c'est bien d'avoir un lieu où on peut se poser, boire un café, échanger avec d'autres groupes. Donc, quand je parlais de cocooning tout à l'heure, pour les musiciens, je vois que... Tout est pensé.
Normalement, tout est pensé.
En même temps, c'est le fruit de votre expérience. Aussi, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ce complexe musical qu'on n'aurait pas dit, ou si vous voulez en dire un petit peu plus dans les renseignements, dans les grandes lignes, on a bien saisi, mais si vous voulez compléter.
Pour aller un petit peu plus dans les détails et les gens auxquels on veut s'adresser, on a aussi des envies de parler. Alors ça, c'est plus par rapport à notre expérience personnelle, mais d'agir aussi sur tout ce qui concerne la musique électronique, parce que là, on s'est beaucoup attardé sur la partie musique amplifiée, mais par exemple dans le plus grand box, le box premium, ça on va en parler bientôt sur les réseaux, mais vous allez aussi pouvoir retrouver des CDJ 3000 qui sont la base en termes de platine de mix que vous retrouvez dans énormément de salles, sauf que ces platines là elles sont très chères à l'achat mais aussi difficiles à trouver pour s'entraîner, donc on s'est dit que c'était une bonne idée d'en faire l'acquisition de deux decks de CDJ 3000 que les gens peuvent utiliser pour s'entraîner, pour mixer, comme n'importe quel groupe utiliserait nos batteries. Pourquoi les DJ ne pourraient pas eux aussi avoir envie de répéter avant d'aller faire des dates dans des clubs peut-être un petit peu plus ambitieux? Du coup, vous allez pouvoir retrouver aussi ces platines-là. C'est une manière pour nous de donner un petit coup de pouce à cette commu aussi, c'est une commu qui nous tient énormément à cœur. On a pas mal de projets en gestation et d'idées, mais proposer ces platines-là, pour nous, c'est essentiel. Il n'y a, à notre connaissance, personne qui le fait. Voilà, pareil, le café près des CDJ 3000, s'il vous plaît, on évite.
Mais tout à fait, non, mais j'y suis parce que, regardez, on a un modeste studio par rapport au complexe musical, mais voilà, il est absolument interdit, bien sûr, de rentrer. Ben oui, parce que bon, ça c'est un détail, on ne va pas s'éterniser dessus, mais c'est vrai que on est dans l'euphorie d'une belle répète, un enregistrement, voilà, on peut renverser. Voilà, ça serait bien dommage. Donc là, pour les DJ, ça permet aussi d'avoir donc du matériel haut de gamme. Hein. C'est pour ça que je disais que même si on a son propre matériel, c'est bien de pouvoir aller... bon, évidemment, après, c'est un service payant. Hein. Vous n'êtes pas non plus des... Il faut bien vivre. Hein. Oui. Mais bien évidemment, mais ce qui permet de vraiment toucher, on y revient, un très large public. Hein.
Ouais, bah c'est pas pareil d'avoir ces DJ-là dont je parle que moi, par exemple, j'ai une platine que je trouve très bien, mais je sais que bon, si demain je devais aller dans un vrai club, ce serait la rupture, elle est un peu dure, elle est un peu difficile. Donc c'est bien de pouvoir pratiquer. Si vous avez des copains qui ont ce genre de matériel, c'est génial, tant mieux pour vous, mais on sait que tout le monde n'a pas la chance d'avoir ça. Donc les proposer à la location, c'est quand même la moindre des choses qu'on puisse faire en tout cas.
Alors Simon, tout à l'heure, vous avez parlé de projet en gestation aussi. Alors déjà, c'est pas mal, hein, toute l'activité.
C'est déjà pas mal.
Je sais pas, bon, je pense que vous avez hâte, bien sûr, d'ouvrir les portes. Mais là, vous êtes dans la phase, il faut aménager les locaux, etc. Donc je pense que le travail ne manque pas.
Oui, exactement.
Mais c'est combien passionnant, parce que vous avez l'expérience, mais là, c'est une nouvelle aventure que vous allez créer, que vous apportez. Donc c'est à Mérignac, mais c'est ouvert, hein, bien évidemment, à tout le monde. Donc dans les prochains projets, parce que là on va écouter tout à l'heure un groupe, vous êtes artistes tous les deux, c'est par rapport à ça ou du coup vous mettez un petit peu en stand-by, hein, parce que quand on a cette fibre là on est toujours ou là ça va être plus les chefs d'entreprise qui sont à l'œuvre. Donc dans les projets à gestation, c'est quoi? C'est vous en tant que musicien, accompagné, managé, je ne sais...
Oui, mais on aimerait beaucoup faire de l'accompagnement d'artistes, studio d'enregistrement. On veut surtout le centrer pour ça. On veut mettre pas mal d'instruments, de synthé dedans. On veut que ça soit un lieu où les musiciens viennent pour créer. C'est vraiment notre projet, quoi, que Rimshot soit un lieu de création.
Il y aura évidemment l'accompagnement des autres. Là, pour l'instant, nous, nos projets perso, individuels, des deux personnes qui viennent nous parler sont en gestation, en pause, parce que c'est normal, c'est les travaux, on peut vraiment pas tout faire, mais évidemment, on va reprendre ça. Mais quand je parlais de ces projets-là, je pense aux petites... aux petites branches annexes que nous permettent ces locaux. On va pouvoir streamer des sessions studio pour montrer un petit peu au grand public comment ça se passe à l'intérieur du studio. Donc on va pouvoir se mettre sur Twitch, on va pouvoir faire des grands lives dans nos salles de répète avec les artistes qu'on a envie. On va pouvoir accueillir des projets, on va pouvoir... Voilà, il y a énormément de choses à faire. Ça dépend aussi des gens qui viennent nous voir avec des projets, mais,
oui, mais vu le
on a plein d'idées en vrac finalement.
Oui, mais ça, je n'en doutais pas. On avait l'occasion de se croiser, et puis c'est vrai que tout le milieu artistique, culturel, voilà, faut bouger, faut avancer. Et puis même vous allez vous enrichir. Je ne sais pas si vous avez déjà des contacts de groupes qui vont venir répéter, parce que vous êtes déjà du milieu. Mais cette locaux de répète. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, plus les studios, ça va faire un brassage d'artistes, qu'ils soient professionnels, amateurs, c'est vraiment ouvert à tous, d'avoir des conditions optimales.
Oui. Alors on a déjà un petit peu de visibilité, nous, sur les gens qui auraient envie de venir, parce qu'en fait, vous pouvez, dès maintenant, créer un compte sur le site Studio Rimshot Bordeaux. Vous pouvez déjà vous créer un compte. Donc nous, ça nous permet de voir un peu les gens. Donc on a une visibilité sur déjà...
Bon, c'est parti déjà.
Ouais, c'est déjà parti. On a déjà plus d'une soixantaine de personnes, enfin de groupes en tout cas, qui ont créé un compte, ce qui est encourageant, qui est super encourageant pour nous-mêmes. Et l'intérêt de le faire si tôt, au-delà de nous dire, de nous envoyer le message « on a envie de venir », c'est que nous, on offre... tant que vous créez votre compte avant l'inauguration, on vous offre l'accès membre, qui est en fait une réduction sur l'intégralité de nos services, qui de base est payante. C'est un paiement en une seule fois annuel qui permet d'avoir des réductions à l'année. Donc c'est très très vite rentabilisé dès que vous venez un peu jouer, et surtout que dans un groupe de 4, l'abonnement à 4, il est assez vite rentabilisé en fait. Mais cet abonnement-là, bah, il est tout simplement offert tant que vous créez votre compte avant l'inauguration. Donc là, c'est déjà plus d'une soixantaine de groupes qui en bénéficient.
Ça, c'est la bonne info, parce qu'après, c'est vrai qu'à l'heure du numérique, c'est mieux pour les groupes. Après, pour les répètes, une fois que c'est parti, ça sera une gestion également comme cela, digitale, numérique, pour s'inscrire. Il y aura toujours le contact direct.
Alors, oui, bien sûr.
Bien évidemment.
C'est toujours possible de décrocher le téléphone et de nous demander une résa. Et nous, on le fait. On a évidemment la main sur tout.
Là où je voulais venir, c'est que ça peut arriver au dernier moment. Un groupe qui a un concert qui tombe, qui n'avait pas forcément prévu. Donc, ils sont tellement bien chez vous que
si on vous appelle
au dernier moment. Bon, après, c'est le système de réservation. C'est libre. C'est libre si ça ne l'est pas, bien évidemment. Mais là, ça sera géré plus de manière comme cela, informatisée.
Normalement, oui. Le système, c'est que sur le site, après avoir créé votre fameux compte, vous allez pouvoir acheter des crédits. Ces crédits-là, donc un crédit, c'est 1 euro. Ces crédits-là, vous allez les dépenser pour contre des heures de répétition. Et ces heures de répétition que vous avez bloquées, elles sont sur votre badge, entre guillemets, une fois que vous les avez réservées, et votre badge va ouvrir la porte d'entrée, heureusement, et la porte de votre box de telle heure à telle heure. Et pour la sortie aussi, promis, on ne vous garde pas jusqu'à la fin.
Non, mais comme vous avez dit, heureusement, je me suis dit, on peut avoir un petit peu, bien évidemment, mais tout est pensé, voilà, c'est du détail.
Ouais, tout est pensé, mais en effet, c'est principalement sur le site. Après, rien n'empêche de nous appeler. S'il y en a qui préfèrent le contact humain, nous, évidemment, on gère les résas en live.
Bien sûr. Mais après, vous allez être pas mal occupé, du coup, hein, entre les studios, l'accueil.
Oui, c'est sûr, mais je...
Mais vous serez là.
Voilà, j'invite quand même les gens à le faire s'ils préfèrent ça. Nous, voilà, on fait de la musique, on est là pour aussi rencontrer des
facilité.
Gens. C'est pas parce que c'est tout autonome que nous, on va pas mettre un pied au loco. On fait ça pour avoir les mains dedans. C'est pour ça que le studio, il est pas en gestion et que c'est nous qui y sommes. Voilà, on est là pour se jeter dans le truc, quoi.
Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le complexe ? Parce que là, c'est de bon augure, hein, pour beaucoup de musiciens de savoir, parce que...
J'espère.
Je ne sais pas si on peut parler de concurrence, mais c'est vrai qu'il y a tellement de groupes. Donc là, c'est à la fois sur un secteur géographique, voilà, Mérignac, mais tout le monde est le bienvenu, bien sûr.
Oui, totalement.
On vient de n'importe quelle ville, etc. Donc ça fait une nouvelle offre, voilà, d'avoir un lieu adapté. Et puis c'est vrai, moi j'insiste là-dessus, mais ça, vous n'allez pas me contredire, même pour des musiciens amateurs, même si on n'a pas la même, comment dire, voilà, si on ne vit pas de ça, ben on a les mêmes envie de partage, d'avoir des conditions optimales. Et donc, ça sera le cas. Donc, est-ce qu'on a à peu près tout dit ? Mais sinon, n'hésitez pas à développer un petit peu plus.
Je pense qu'on a...
Je pense qu'on a fait un bon tour. Après, pour ce qui s'agit des gens qui font aussi ça, nous, On a quand même fait des sondages, des recherches, des études avant de lancer tout ça. On n'est pas arrivé juste avec une idée, la fleur au fusil. Si on le fait, c'est parce que je pense qu'il y a largement assez d'émulsions musicales sur Bordeaux et sur
ça
le bassin.
Ça correspond à un vrai
besoin. Et sur le bassin, je pense qu'il y a un besoin et que tout le monde, en tout cas les structures qui sont déjà là, n'arrivent pas à combler tout 100%. Donc je ne pense pas que notre arrivée soit menaçante pour quiconque.
Non, c'est pour ça que j'ai évité.
Oui, totalement. Mais moi, j'ai absolument aucun problème à parler de tout ça. C'est normal. Et même dans la démarche dans laquelle on est, et certaines structures peut-être qui nous écoutent se reconnaîtront, on essaye de contacter au maximum les gens, de se rencontrer, aller serrer des pinces et essayer de leur proposer comment réfléchir à mutualiser les forces pour surtout dynamiser le bassin bordelais, avoir une meilleure rétention des talents. C'est ça qui est important pour nous, plutôt que se faire la guéguerre. Voilà, c'est pour ça qu'on essaye de parler de notre projet, de ne pas faire ça dans notre coin. Voilà.
Oui, puis on a tous besoin de tout le monde. Hein. Si à un moment donné, vous vous tournez à plein, c'est tout le mal que je vous souhaite, d'avoir quelques liens.
Ben oui, il faut qu'on sache où renvoyer les gens s'il y a besoin. Ou comment, si des gens viennent nous voir et que ce n'est pas totalement notre domaine de service, il faut qu'on sache vers quel partenaire les renvoyer. Voilà, on fait de la musique. Hein. Le but, c'est de se tirer vers le haut mutuellement. Ce serait bien qu'il y ait ce genre d'émulsion sur Bordeaux. Quoi.
Voilà.
Alors là, non mais tout à fait, non mais moi j'adhère parfaitement, on avait déjà échangé bien sûr quand on se croisait à Bassens, c'est là tout ce qu'on me dit, bien sûr ça me parle d'avoir voilà, des locaux réfléchis dans l'accueil, le matériel de gamme, etc. Donc là on va se quitter en musique. Al 4, hein, parce que je vous avais posé la question s'il fallait dire Al 4.
Al 4, et non, c'est Al 4.
Non, parce que le titre est en anglais. Hein.
Oui, le titre est en anglais, évidemment. Artiste qui performe en français, qui chante en français. Il peut y avoir quelques mots d'anglais, mais sinon c'est du français. Un ami avant tout, mais un artiste qu'on suit depuis l'époque de l'association Palace Hotel, depuis des années, performeur sur Bordeaux. Grand artiste, quelqu'un de très fort et que nous on a vraiment envie d'accompagner avec Rimshot qui sera très probablement la première personne qu'on va accompagner très sérieusement avec la structure. Voilà, nous on y voit plein de potentiel, il est sur un gros projet en ce moment, donc ça c'est un single, c'est pas quelque chose du projet parce qu'on va pas spoil, mais il nous a donné l'autorisation de donner ça. Nous on y croit beaucoup, moi je mets une très sérieuse pièce dessus et bon. Voilà, c'est un très bon humain.
Bon, de toute façon on suivra tout ça, hein.
Exactement.
Dès que le Cyril Rimshot est inauguré, donc on compte mi-avril à peu près, ce qui est une échéance à court terme.
Ben, ça arrive, hein.
Ça arrive, tout à fait. Et après, voilà, faudra pas hésiter, on restera en lien. Voilà, nous, je précise pas à chaque fois, mais on est soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine en tant que radio découverte musicale, comme le confrère de la Clé des Ondes, RIG, on a fait un petit coucou. Donc là, on est là modestement, mais on est là aussi pour la diffusion, donc sur des projets. Voilà, donc j'ai bien noté, si vous mettez une pièce, Simon, c'est qu'il y a quelque chose. Mais en même temps, c'est ça, dans la musique, il faut avoir des coups de cœur, et puis voilà, il faut savoir les accompagner. Ce qui sera le cas, mais Simon et Mérigue, merci beaucoup.
Merci.
Alors, on va suivre tout cela. Du coup, on ne se recroisera plus à Bassens, vous n'aurez plus le temps, du coup, d'être sur les événements.
Oh que si. Bon. On compte aussi en faire, mais ça c'est...
C'est une bonne réponse.
Si, ok si.
Bon, mais en tout cas, ravi, il ne faudra pas hésiter à communiquer, bien évidemment, dès que le lieu va ouvrir, s'il y a des projets annexes, des fois il peut y avoir des concerts organisés et autres, mais voilà, si les groupes qui vont venir répéter chez vous, enregistrer, voilà, on est là en termes de lieu de diffusion, voilà. Allez, merci à Elliot, à la régie technique. Voilà, juste avant que se quitte en musique. Voilà, nos prochains invités. Notez que mercredi, dans le cadre de notre journal, on retrouvera Michel Favré qui viendra de sa Dordogne, pas natale. Hein, voilà, mais il est résident. Je ne vais pas vous raconter sa vie. En tout cas, il viendra nous présenter sa 131e, j'en bafouille, 131e chronique astro mercredi. Et pour demain, les invités, voilà, c'est encore à confirmer. On est partenaire de plusieurs événements musicaux ce week-end, que ce soit Sortie 13 à la salle Simone Veil à Sauveterre de Guyenne et d'autres. Voilà, donc. on n'a pas encore calé, ça confirmé. Mais voilà, on sera présent demain, bien sûr. Et là, donc, on va se quitter avec Al 4. Si on veut plus d'infos, d'ailleurs, Simon et Émeric, on peut trouver les infos de cet artiste sur les réseaux.
Évidemment.
Parce que là, vous nous tenez en haleine, vous y croyez.
Oui, non, on y croit. Vous pouvez, tout simplement, le mieux pour suivre ce qu'il fait, c'est soit d'aller directement sur ses réseaux musicaux, donc Spotify, Deezer, Apple Music, AL4, ou alors le même nom sur Instagram pour suivre un peu ses actualités, sachant qu'il y a quelque chose qui arrive très bientôt.
Voilà, mais ça j'ai bien retenu. C'est pour voilà. Ça que si on veut d'ores et déjà pouvoir suivre, mais en même temps 2026, voilà les réseaux, ouais. Bien sûr. Et puis après, dès qu'on a des productions, plateformes, etc. Allez, on se quitte avec Al 4 et encore merci à tous les deux, Simon et Émeric, voilà fondateurs du studio Rimshota.
Ciao.
Willkommen.
Hey, siesto.
Bienvenue.
Vous écoutez notre émission radio Le Bon, Le Mauvais et l'Écolo. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Radio 2 sur la fréquence 91.3 dans l'émission Les Bons, Les Mauvais et l'Écolo en collaboration avec la Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine. Nous sommes des volontaires européens à la Maison de l'Europe dans le cadre du Corps européen de solidarité et chaque mardi, nous avons l'opportunité d'animer une émission sur Radio 2 sur un sujet que nous trouvons important et intéressant. Avant de commencer, je me présente, je m'appelle Martine et je suis italienne. Je viens de Cagliari en Sardaigne et je donne la parole à mes collègues.
Bonjour, je m'appelle Sarah, je viens d'Autriche.
Et moi, je suis Nicole et je viens d'Italie, de Turin.
Et moi, c'est Karl et je viens d'Allemagne, de Dresden.
Merci. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet dont on entend de plus en plus parler, c'est l'éco-anxiété. Ce terme désigne un sentiment d'inquiétude face aux crises environnementales comme le changement climatique, la perte de biodiversité ou les catastrophes naturelles. C'est considéré comme une réaction émotionnelle face à la dégradation de la planète et à l'impression que les actions pour y faire ne sont pas suffisantes. Une étude récente montre d'ailleurs que ce phénomène touche une partie importante de la population et aussi ici en France. Plusieurs millions de personnes ressentent une anxiété modérée à forte. Pour certaines, cela peut même affecter le bien-être psychologique au quotidien. Mais pour commencer la discussion avec mes collègues autour de la table qui sont des éco-ambassadeurs comme moi à la MEBA, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà ressenti cette anxiété ou une inquiétude particulière quand vous pensez à l'avenir de la planète?
Merci Martina pour la question. Mais oui, en effet, il m'est déjà arrivé de ressentir de l'éco-anxiété en pensant à l'avenir de la planète. En effet, les informations sur le changement climatique ou la perte de la biodiversité peuvent parfois être inquiétantes. Mais j'essaye de transformer cette inquiétude en motivation pour m'informer davantage et adopter des comportements plus responsables. Je pense que cette prise de conscience peut aussi encourager des changements positifs dans la société en général.
Tout d'abord, je voudrais dire que j'entends par éco-anxiété un véritable trouble psychique lié au climat qui restreint la vie. Et pour moi, ça faire du souci ou avoir peur, c'est une autre chose. Mm-hmm. Et c'est ainsi que j'ai toujours compris ce terme. Et selon cette définition, c'est certainement pas mon cas, mais je m'inquiète tout de même pour notre planète. Cela correspond alors à ce qu'a dit toi, Martina. Mais cela ne restreint pas ma vie pour autant, comme éco-anxiété mm-hmm. ferrée.
Oui. Ah oui, tout à fait, Karl. J'ai l'impression qu'on a l'habitude d'utiliser certains termes médicaux, par exemple l'anxiété ou le SPT, l'état de stress post-traumatique, mais pour dessiner des petits soucis qu'on ressent au quotidien. Mais selon moi, il est important de garder en tête que ces termes sont liés aux véritables symptômes médicaux, comme tu as dit, Karl, que... Par exemple, que la vie quotidienne est restreinte, que c'est chronique, etc. Et oui, je crois qu'il y a pas mal de gens qui ont une véritable éco-anxiété. Je me suis renseignée un peu aussi. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que l'éco-anxiété ne touche pas chaque partie de la population également. Par exemple, des études montrent qu'elle est plus prononcée avec les femmes, la jeune génération. Personnellement, je traverse des phases. Parfois, quand je me sens généralement un peu plus déprimée, je n'ai aucun espoir pour notre planète. Et puis, quand je passe une bonne journée, je me sens optimiste. Donc, ce n'est pas une véritable éco-anxiété.
Okay. C'est le même pour ma part. C'est plutôt un sentiment de frustration parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de pression sur les actions individuelles, alors que la conscience collective n'est pas toujours à même niveau. Et quand on voit que certaines grandes entreprises peuvent en un moment annuler tous les efforts faits au niveau individuel, ça peut être décourageant.
Oui, c'est vrai.
J'ai aussi une autre question. Est-ce qu'il y a un moment précis, un nouvel, un documentaire, un événement climatique que vous a particulièrement marqué?
Moi, je pense qu'il n'y a pas seulement un moment précis, mais plutôt plusieurs événements qui m'ont marqué au fil du temps. Par exemple, je peux dire les images d'incendies de forêts dans différents pays ou les vagues de chaleur de plus en plus fréquentes en Europe m'ont particulièrement frappée. Voir ce phénomène se répéter et devenir plus intense, donc l'impression que les conséquences du changement climatique sont déjà très concrètes et très réelles. Les documentaires et les reportages sur la perte de biodiversité m'ont aussi beaucoup marqué. En effet, ils montrent à quel point les écosystèmes sont fragiles et aussi à quelle vitesse ils peuvent se dégrader. Tout cela, encore une fois, m'a fait réfléchir davantage à l'importance d'agir collectivement pour protéger la planète, mais pas seulement, aussi singulièrement, on peut faire quelque chose.
Et je suis d'accord avec toi. Bien sûr, donc parfois, ou pas seulement parfois maintenant, mais en été, ce sont surtout les images des catastrophes naturelles ou d'incendies de forêts qui nous marquent. Tout aussi des documentaires sur des animaux ou la nature. Qui un peu nous interpelle et les informations génèrent parfois des images similaires. Mais pour moi, c'est un peu plus parfois que les documentaires laissent une impression plus empathique ou plus réfléchie que les nouvelles.
À travers les images aussi.
Oui, je trouve les documentaires sont touchants, mais ce qui m'a marqué beaucoup plus, c'est quand quelque chose lié au changement climatique se passe proche de moi. Par exemple, en Autriche, en septembre 2024, nous avons eu des inondations extrêmes qui ont causé la mort de 5 personnes. Et beaucoup de gens n'ont pu être sauvés qu'à l'aide d'hélicoptères. Et la destruction était considérable parce que plus de 400 communes ont été touchées. Et dans un pays avec 9 millions d'habitants, tout ça, c'est considérable. Et ça me donne toujours des frissons quand j'en parle. Mais du côté positif, la solidarité, donc ça inclut aussi la réponse à cette destruction, était énorme. Par exemple, du jour au lendemain, 200 bénévoles de la communauté syrienne d'Autriche ont apporté leur aide à... et essayer de gérer la situation. Donc oui, cet événement m'a inquiété beaucoup et m'a vraiment marqué, mais aussi touché d'une manière plutôt positive.
Est-ce qu'il vous arrive de vous sentir coupable certaines fois par rapport à certaines habitudes, par exemple prendre l'avion ou consommer certains produits ou...
Oui, je pense que cela peut parfois arriver, surtout quand on prend davantage conscience de l'impact environnemental de certaines habitudes quotidiennes. Par exemple, je peux donner un exemple, voyager en avion ou consommer certains produits peut susciter un certain sentiment de contradiction. On sait que ces choix ont un impact sur l'environnement, mais ils sont aussi parfois liés à des nécessités personnelles, professionnelles ou courtoises. C'est plus rapide de prendre l'avion et aussi quelquefois moins cher. Et je pense que beaucoup de personnes ressentent ces dilemmes aujourd'hui, parce que pour moi, c'est comme ça. Et plutôt que de se sentir uniquement coupable, j'essaie surtout d'être plus consciente de mes choix et de faire des efforts lorsque c'est possible. Par exemple, en privilégiant des moyens de transport plus durables ou en consommant de manière plus responsable. Par exemple, si je prends l'avion, j'essaie de prendre le train ou les bus plus souvent pour faire... Oui, pour aider un peu...
Pour équilibrer.
Oui, équilibrer un petit peu. Je sais que ce n'est pas suffisant, mais j'essaye de faire quelque chose.
Mais je suis d'accord avec toi, Nicole. Bien sûr, on remet en question ses propres décisions et surtout, quand on prend l'avion, on essaie d'éviter cela. Personnellement, cela me met parfois mal à l'aise. Pour d'autres choses, aussi égoïste que cela peut paraître, je n'ai pas encore eu ces sentiments. Mais pour l'avion, oui, c'est vrai. Je me sens mal à l'aise. Mais j'essaie quand même de réduire mes émissions dans ma vie quotidienne. Et je vais creuser un peu plus maintenant parce que d'un autre côté, il faut dire que quand on regarde les grandes entreprises ou la politique, on se sent de plus en plus fatigué. C'est aussi un peu le problème de l'empreinte écologique. Je ne sais pas si vous le connaissez, qui me permet de vérifier ces émissions privées. On peut mettre tout dans une calculatrice. Et tu dis, tu as 10 tonnes du carbone, des choses comme ça. Mais cette empreinte a été développée dans les années 90 par deux chercheurs, je pense en Suisse, mais qui l'a popularisée dans les années 2000. C'était British Petroleum, donc une compagnie pétrolière avec une campagne publicitaire jusqu'alors. Cette répartition des gaz à effet de serre entre chaque individu n'existait pas encore vraiment. Et bien sûr, il est faux de dire qu'il ne faut rien faire pour autant, car c'est en masse qu'on obtient toujours le plus. Et si chacun fait un petit effort, cela aide énormément. Mais comme on le voit, il est facile pour les grandes entreprises de se décharger de leurs responsabilités, comme British Petroleum a le fait. Et juste dit, les gens, vous pouvez faire des choses et nous, on relaxe avec cette empreinte écologique. Et je pense aussi que de plus en plus des gens comprennent cela. C'est une bonne chose quand on peut faire pression sur eux, mais aussi ils se sentent trahis et parfois utilisent cela comme justification pour ne rien à tout faire. Parce que ça, c'est en erreur. Et il en résulte une sorte de lassitude climatique maintenant, qui, à mon avis, se manifeste aussi de plus en plus chez les jeunes, qui se disent, OK, ce sont des entreprises. Oui, c'est vrai, ce sont des entreprises, c'est la politique qui doit changer plus, qui a l'impact, qui est plus. Mais comme qu'on tout fait en petit truc, ça aide aussi.
Oui, ça aide aussi. Oui, c'est vrai.
Vous avez déjà calculé votre empreinte carbone?
Non, jamais.
Pas encore.
Mais je voulais le faire. Quand j'étais petit, je ne suis pas ça. C'était populaire en Allemagne il y a 7 ans, 6 ans, des choses comme ça.
Oui, mais ça se fait.
Chacun a fait ça.
Je pense en Italie. Pas.
Mais maintenant, c'est tout clair que c'était une entreprise pétrolière et les gens se disent aussi oui.
Ouais.
Ok. C'est pas trop bien que cette conscience est déjà arrivé. Parce que quand je suis arrivée en France, j'ai fait quelques ateliers de cuisine. On a commencé par calculer notre empreinte carbone. Et c'est la raison pour laquelle il faut être végétal. Bah oui.
C'est trop bien.
Ok. Mais pour moi, Le fait que j'habite loin de ma famille et que je fais mes études ailleurs, j'ai dû prendre l'avion pas mal de fois. Et ça m'a beaucoup dérangée parce que c'était ma décision d'étudier en Angleterre. C'était ma décision d'aller en France. Et j'étais consciente que aller voir ma famille en prenant l'avion constitue la majorité de mon empreinte carbone. Donc l'année dernière, en fait, j'ai décidé de donner de mon mieux pour utiliser uniquement le train pour aller en Angleterre et en Autriche. Et jusqu'à maintenant, ça se passe bien. Mais sinon, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Carl. Culpabiliser des individus n'a aucun sens si les grandes entreprises n'agissent pas. Et on a, je pense... Premièrement, on a principalement besoin d'une volonté politique. Et oui, comment créer cette volonté? J'imagine pas la pression de la population sur la politique.
Oui, vraiment sur la politique. Mais la politique elle-même doit accepter que ça, c'est un truc qu'ils doivent changer. Parce que qu'on a vu vers 2020, il y avait beaucoup de gens sur les rues. Et où sommes-nous maintenant? Pas plus
ouais,
loin, parce que la politique s'est dit oui.
Merci beaucoup pour votre réponse. Avant de continuer notre discussion, on va faire une petite pause musicale. Je vous recommande aussi d'écouter les paroles et les sons de cette chanson qui parle justement d'un lien profond avec la nature. C'est un morceau qui me rappelle des journées où je faisais du yoga en plein air en écoutant cette musique et où je me sentais vraiment connectée à la nature. La prochaine chanson s'appelle Naturaleza de Danit dans la version Mosè.
De retour sur Radio D, toujours dans l'émission Les bons, les mauvais, l'écolo, en collaboration avec la Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine. Avant la pause, nous parlions de l'éco-anxiété et de la manière dont cette inquiétude face aux crises environnementales peut affecter certaines personnes. Maintenant, j'aimerais aborder une autre dimension du sujet, le rôle des médias et de la communication climatique. Aujourd'hui, nous sommes exposés parce que chaque jour a des informations sur les changements climatiques et les médias jouent évidemment un rôle essentiel pour informer et sensibiliser les publics. Mais certaines recherches montrent aussi que cette exposition constante à des nouvelles, souvent très alarmantes, peut renforcer l'inquiétude chez certaines personnes. À votre avis, est-ce que les médias parlent du changement climatique d'une manière qui informe ou parfois d'une manière qui peut aussi inquiéter les gens?
Alors, comme tu as déjà dit, Martine, je pense que les médias, en effet, jouent un rôle très important pour informer le public sur les changements climatiques. En effet, ils rendent visibles les phénomènes qui, autrement, peut sembler très loin de nous. Mais cependant, parfois, la manière dont certaines informations sont présentées peut aussi accentuer l'inquiétude, surtout à travers les images ou les titres qui sont très alarmants. En effet, je me rappelle en Italie, on a eu une inondation qui a touché la région de l'Emilia-Romagne. Mm-hmm. Et cette inondation a été très médiatisée. En effet, les images de villes submergées et de milliers de personnes évacuées ont profondément marqué l'opinion publique. Alors, dans ce cas, les médias ont permis de montrer la gravité de la situation, mais en même temps, ils ont contribué à susciter beaucoup d'inquiétude face aux conséquences concrètes du changement climatique. Je pense que cela, c'est un bon exemple pour l'expliquer.
Mm-hmm. Je trouve que c'est une question difficile. Aujourd'hui, évidemment, on sait de l'ampleur que des mauvaises nouvelles répandues par les médias peuvent nous déprimer. Mais c'est aussi le cas, c'est pas spécifique avec le changement climatique, c'est aussi le cas avec les guerres, la violence, etc. Ouais. Donc je pense qu'il serait dommage de dire aux médias, il ne faut pas que vous montrez la réalité de la situation parce que ça inquiète la population.
Mm-hmm. Ouais.
Évidemment, un regard neutre et l'objectivité sont extrêmement importants, mais on doit simplement l'avouer que le changement climatique aujourd'hui est une situation extrêmement déprimante. Donc, si un certain niveau de l'objectivité est garanti, et je suis parfaitement consciente qu'on ne peut jamais être 100% neutre, je pense que c'est plutôt aux consommateurs de médias de s'abstenir de lire les nouvelles, etc., si ça touche à leur santé mentale.
Oui, c'est très vrai. Mmh. Oui, oui, c'est très vrai.
Je me connecte à ces questions sur la santé mentale. Est-ce que vous pensez qu'il est important de trouver un équilibre entre s'informer sur les crises climatiques et protéger sa santé mentale?
Oui.
Oui, je peux répondre. Oui, je pense qu'il est très important de trouver un équilibre entre s'informer sur les crises climatiques et protéger sa santé mentale, surtout, je pense, pour les jeunes. En effet, aujourd'hui, les jeunes sont très exposés aux informations à travers les réseaux sociaux et les médias, comme on a déjà dit, et ils sont très souvent sensibles, ils sont sensibles aux questions liées à l'avenir de la planète. On doit remarquer que s'informer est essentiel pour comprendre les enjeux et pouvoir agir concrètement, mais une exposition constante à des nouvelles alarmantes peut aussi provoquer de l'anxiété.
Oui, personnellement, j'essaie de ne pas lire les nouvelles chaque jour, mais avoir une heure ou avoir un temps consacré à faire ça. Pendant le week-end, par exemple, je prends le temps, j'essaie d'acheter un journal et je me consacre pour une heure au misère du monde. Juste pour
c'est là, c'est
pour,
très bien, oui.
Pour rester informée. Et sinon, j'essaie de m'éloigner un peu. Mais ça, c'est difficile, comme tu as dit, avec les réseaux sociaux.
Oui, ouais. Ouais.
Oui, c'est vrai.
Oui, c'est vrai.
On va maintenant faire une autre petite pause musicale. C'est une chanson très connue, mais surtout transmet un message simple et positif. Don't worry about a thing, cause every little thing is gonna be alright. C'est aussi un beau rappel pour notre discussion d'aujourd'hui, même face aux inquiétudes pour la planète. Il est important de garder un peu d'espoir et de sérénité. On écoute Three Little Birds de Bob Marley.
Don't worry. this morning. Smile with the rising sun. Freely the bird beats by my doorstep, singing sweet songs of melodies pure and true, saying,
this is my message to you, woo-hoo.
Singing, don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright.
Voilà, sur Radio 2, toujours dans les bons, les mauvais, les colos. Jusqu'ici, nous avons parlé de l'éco-anxiété, des inquiétudes que les changements climatiques, la façon dont les médias en parlent, peut provoquer. Mais maintenant, on va se concentrer sur un aspect un peu différent. Comment parler d'écologie de manière constructive, inspirante et motivante pour transformer cette inquiétude en action positive. Je vais vous demander comment peut-on transformer l'éco-anxiété en action concrète pour la planète? Ou quels gestes ou initiatives peuvent nous aider à passer de l'inquiétude à l'action?
Moi, je ne sais pas si j'ai la solution parfaite, mais il y a quelques années, j'ai lu un livre qui m'a beaucoup inspirée et beaucoup m'a marquée, qui s'appelle « Pédagogie des opprimés » de l'auteur brésilien Paulo Freire. J'espère que cette prononciation était OK. Il ne s'agit pas d'un livre sur le climat ou l'éco-anxiété, c'est plutôt sur l'éducation populaire et comment l'éducateur peut donner aux opprimés, ça, entre guillemets, ça veut dire les personnes défavorisées, le prolétariat, des moyens pour de construire une conscience claire de leur position et de rechercher avec ces personnes-là les moyens de transformer le monde. Et l'auteur a beaucoup parlé de l'importance de l'amour et de l'optimisme pour cette transformation. Et il écrit quelque chose comme ça, je ne me souviens pas parfaitement. « Si je n'aime pas le monde, si je n'aime pas la vie, si je n'aime pas les champs, je n'aurai aucune motivation pour le changer, pour le transformer au mieux. » Donc, quand on s'inquiète de la situation actuelle, je trouve que c'est aussi important de se rappeler que ce désespoir sert à presque rien. Ce qui nous aide dans notre situation actuelle, ce qui nous pousse à changer des choses, à aussi faire pression sur la politique, c'est l'optimisme et aussi un peu de l'amour. Donc, on n'a pas de temps pour le pessimisme.
Oui. C'est très intéressant.
Mais non, je trouve... C'est vrai. On doit avoir un certain optimisme dans tout ça. Sans optimisme, ça fait rien.
Oui, ça ne change rien.
Oui, ça ne change rien.
Merci pour vos réponses. Et voilà, notre émission touche à sa fin. Aujourd'hui, nous avons exploré l'éco-anxiété, ce sentiment qui peut parfois nous submerger face aux crises climatiques. Mais nous avons aussi vu comment il peut devenir un moteur pour agir. Rappelez-vous, chaque geste compte. Reconnaître nos émotions, parler des solutions peut inspirer les autres à passer à l'action concrète. Merci à mes collègues, Sarah, Nicole et Karl, et vous, auditeurs, de nous avoir suivis aujourd'hui sur Radio D dans les bons, les mauvais et les colons en collaboration avec la Maison de l'Europe Aquitaine. À très bientôt pour une prochaine émission.
Au revoir.
Merci.
Au revoir.
Ciao. Merci à toi.
Ciao. Au revoir.
Vous venez d'écouter notre émission « Le bon, le mauvais et l'écolo » par les jeunes ambassadeurs européens de la Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine. À la prochaine.
Hello.
Bis zum nächsten Mal.
Seht mal.
Viert euch.